Certains disent que mai 68 vit le triomphe du cynisme. Pas moi. Je crois à la force de l'intelligence, aux idées et aux gens. Le cynique mot d'ordre de mai, c'était « Libérer nos camarades ». Le premier, le fondateur, « Libérer nos camarades ». Des gens se faisaient matraquer et emprisonner, renonçaient à leurs examens pour libérer leurs camarades. Ils criaient « Nous sommes tous des juifs allemands ». Ils ne se souciaient aucunement de leur carrière, ni de leur avenir personnel. Jamais. Ils détestaient ces mots. Ils étaient habités par leurs idées, par la solidarité, par un idéal, des émotions de pensée, la liberté. Et moi, un peu stupide, je n'ai pas changé. Car, comme l'a écrit Grace Paley, une nouvelliste américaine, les écrivains ont le devoir de se planter au coin de la rue et de distribuer des tracts superbement écrits. L'écrivain a le devoir de sa paresse. L'écrivain a le devoir d'entrer et sortir de sa tour d'ivoire. De sexe masculin, l'écrivain a le devoir d'être une femme. De sexe féminin, elle a le devoir d'être une femme. L'écrivain a le devoir de dire la vérité au pouvoir, selon le précepte des Quakers. L'écrivain a le devoir d'apprendre la vérité auprès des sans-pouvoirs. L'écrivain a le devoir de répéter inlassablement « Il n'y a pas de liberté sans justice. Il n'y a pas de liberté sans peur ni sans courage. Il n'y a pas de liberté si l'on ne préserve pas l'eau, la terre, l'air, les livres et aussi les enfants. » L'écrivain a le devoir d'être femme, de tenir le monde à l'œil et d'être entendu.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Dans ce monde tel qu'il est devenu, il faut du courage ou de l'inconscience, ce qui n'est pas du tout la même chose, comme le répètent les imbéciles, pour oser affirmer « je crois à la force de l'intelligence ». Dans quelques mois, nous serons noyés sous les commémorations de mai 68. Médias et éditeurs politiques et intellectuels époussettent déjà leurs vieux dossiers pour nous conter les belles heures de notre dernière grande émotion nationale. Et alors que ceux qui s'y étaient jetés avec la fougue de leurs 20 ans ne savent plus trop quoi en dire tant le désenchantement les a englués, leurs détracteurs répéteront à l'envi qu'ils sont à l'origine de tous nos maux. Oui, ceux-là même qui voulaient un partage plus équitable des richesses, du temps pour vivre, l'égalité homme-femme et la libération de leurs camarades seraient donc les uniques responsables du déclin de la France. Et plus la vieille droite, plus la réaction, plus l'ordre moral et le capitalisme le plus brutal gagnent du terrain, plus la dénonciation des rêveurs d'il y a 50 ans est à la mode. À quoi servent donc les écrivains ? À nous raconter de belles histoires ? Pas seulement. Ils sont là pour nous rappeler ce à quoi nous avons cru, ce pourquoi nous nous sommes battus, ce en quoi nous avons espéré. Les écrivains, les vrais, doivent, avec obstination, glisser un petit caillou dans notre pantoufle pour nous empêcher de ronfler devant la télé. Geneviève Brisac en a plein les poches de ces petits cailloux, brillants, pointus, qui parsèment les histoires qu'elle nous confie, avec espoir, pour qu'elles grandissent en nous et nous donnent du courage. « Vie de ma voisine », son nouveau livre, tout juste paru chez Grasset, est l'un de ceux que nous aurons beaucoup de plaisir à offrir aux gens que nous estimons. On y entend sa voix, un peu tremblante, mais qui jamais ne faiblit dans la noire forêt où nous cherchons notre chemin. Elle sert d'écrin à celle de Jenny, dite Nini, née en 1925 à Paris, fille de Rivka et de Nissim, venue tous deux de Pologne, vers le pays des Lumières, et qui y furent renvoyées pour y mourir en 1942. Pas une complainte, non, pas du tout. Une conversation entre deux femmes qui aiment les livres, les enfants, le théâtre et les manifestations. Geneviève Brisac est aujourd'hui l'invitée de l'Humeur Vagabonde.
I'm a petty thief. What to find I keep. I was supposed to set an example. I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep true. And if I gave it up, would I still be a thug? Don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart in a scrap metal yard. You don't get to be a human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose and realize that maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. Small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. I'm a petty thief. What I find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal.
Un jour d'hiver, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Cela me fait un plaisir immense, je ne reçois plus jamais de lettres. Dans ma boîte, la factrice glisse des injonctions, des factures, des impayés, des imprimés. Mais de vraies lettres, jamais plus. Et c'est triste. Un papier quadrillé plié en quatre est glissé à l'intérieur de l'enveloppe. Une phrase écrite au crayon, de grandes lettres calligraphiées, comme un message secret. Je vois cela comme l'étape minuscule d'une chasse au trésor dont le but m'est inconnu. Les mots, mis au bout les uns des autres, disent ceci. La mort des nôtres, et nous n'y pouvons rien, nous a nourris non pas de rancœur, non pas de haine, mais d'une énergie que rien ne pourra briser. Qu'on ne vienne pas me parler de deuil si ce mot signifie que les tiens s'éloignent. Au contraire, ils sont à tes côtés, pour te donner le courage de vivre et de triompher des épreuves. Ils sont à tes côtés, tu peux compter sur eux. Si je devais résumer mes relations avec mes parents, je dirais exactement cela, écrit l'auteur de la lettre. J'ai recopié ces phrases d'un livre, elles ont été écrites par Scholastique Mukasonba, mais c'est comme si elles avaient été écrites pour moi, par moi, dit l'auteur. Ces phrases me coupent le souffle, à moi aussi. Je répète, mes parents sont morts. Ils sont à mes côtés pour me donner le courage de vivre. C'est grâce à eux que je vis ici, dans cette cour. Je peux compter sur eux. La lettre a été déposée par ma voisine, Eugénie, dite Génie, dite Nini. Personne ne l'appelle plus Eugénie depuis bien longtemps, car Génie est née en 1925. Comme ma mère, à qui elle ne ressemble pas, comme Flannery O'Connor, qui n'a rien à faire ici, sinon nous protéger de la banalité et du mal. Génie. J'ai parfois le sentiment que la diminution de son prénom procède, comme dans une histoire talmudique, d'un processus d'auto-effacement. Eugénie, Jenny, Nini, Ni, où es-tu ? Je suis montée chez elle comme la lettre m'y incitait. L'escalier sent le cigare au rez-de-chaussée. Ensuite, en gravissant les marches un peu glissantes, je suis prise dans une odeur douce de friture et de légumes trop cuits. Le tapis est filoché et rouge et noirâtre, fait comme un petit chemin au milieu des fissures. Je me trompe à chaque fois de palier. J'imagine que son logement est au-dessus du mien, et je me perds. Je me perds dans cet escalier de bois étroit qui mène de chez elle à chez moi. Cela semble simple, et cela ne l'est pas. Les temporalités et les topographies se mélangent. Nous ne savons plus alors quand et où nous sommes. Un autre espace-temps surgit, comme quand on lit, comme quand on aime, comme cours de certaines promenades. Quand je marche avec une amie, j'oublie le monde. Je sonne, elle ouvre la porte d'un air résolu. Elle lève la tête avec un sourire espiègle. « Je veux te parler de mes parents, » dit-elle. « Tu t'en doutais ?» Et elle rit. Je suis entrée, passant dans un autre monde, un autre temps.
Bonjour Geneviève Brisac.
Bonjour Kathleen Eva.
On vient d'entendre le récit de votre rencontre, du début de votre rencontre avec Génie Plocky, avec Génie. Et je me demandais, en écoutant la lecture par Aurélie Charron de cette page de votre livre, si c'était parce que vous étiez écrivain que ce type de rencontre, que l'on ne rencontre que dans les livres, vous arrivait, ou si c'est parce que vous aviez développé un sens de l'écoute et de l'observation qui fait que vous êtes écrivain.
Mais ça, je crains fort, chère Kathleen, que ce soit à vous de le dire. Moi, je ne sais pas. D'abord, il y a quand même un certain nombre d'écrivains qui ne sont pas particulièrement
observateurs, disponibles.
Ouais. Oui. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé. J'aime ça. J'aime tous les jours cela, et ça fait partie à la fois de ma conception de la littérature et de ma conception du monde aussi. C'est-à-dire, j'aime rencontrer des gens, j'aime les écouter, et j'aime qu'ils entrent dans mes livres.
C'est exactement les mots que j'aurais employés. Entrer dans vos livres, parce que Eugénie, on va l'appeler Génie, elle n'aime pas être appelée Eugénie, je suppose, elle est rentrée dans votre univers comme si elle y avait toujours vécu. Elle fait partie des gens que vous aimez, des personnages que vous décrivez, des histoires que vous racontez, comme s'il n'y avait pas de hasard.
Oui, je pense d'une certaine façon qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on écrit les livres qu'on a à écrire, d'une certaine façon qu'on fait les rencontres quand les choses vont bien, qu'on a mérite de faire, auxquelles on a droit, qui sont un peu écrites. Et d'ailleurs, elle-même l'a également vécu comme ça. Et elle m'a dit un jour que la rencontre qui avait eu lieu entre nous était une rencontre inespérée. Et c'est tout à fait comme ça que je la décris. Une rencontre inattendue, inespérée, à la fois très peu probable et très probable, les deux en même temps.
Qu'est-ce qui vous a d'abord séduit chez Génie, Geneviève Brisac? On a entendu les mots que vous retranscrivez dans votre livre, les siens. C'est cette manière de parler des parents disparus qui accompagnent, qui vous a happé. Ça correspondait, ça a soulevé un écho très précis en vous.
Oui, c'est vrai. Ça a soulevé un écho très précis et qu'on sent, je crois, d'une certaine façon dans la page même. Mais je crois que ce qui m'a subjuguée, alors que je me sentais perdue dans cette nouvelle maison, c'était la lumière qu'elle dégage. C'est-à-dire que, évidemment, je suis bien contente qu'elle ne soit pas là, parce que ça serait plus difficile à dire en sa présence. Mais il y a une détermination, une énergie chez cette femme, une lumière qui vraiment correspond à l'ensemble de sa vie. On a coutume de dire qu'à partir de 40 ans, on a la tête qu'on mérite. Il y a dans l'allure de Génie Plocky quelque chose qui correspond à la vie qu'elle a eue. Et ça, c'est un facteur pour moi de... c'est une raison d'espérer. Et au fond, j'ai écrit ce livre par réaction aussi à toute cette tristesse qu'on sent partout, à tout ce chagrin, cette absence d'avenir. Et c'est quand même paradoxal d'aller chercher chez une femme née en 1925 l'énergie de l'espoir. C'est vraiment de ça qu'elle parle, même s'il lui arrive, comme à vous, comme à moi, d'être déprimée ou triste. C'est un espoir philosophique, en fait. Hein. C'est un espoir humaniste, réellement.
Alors, je disais, il n'y a pas de hasard dans votre vie, Geneviève Brisac, dans cette rencontre avec Génie, votre voisine dans votre nouvel appartement. Mais il n'y a pas de hasard parce que quelqu'un vous a réuni, par-delà la mort, c'est Charlotte Delbault.
Vous aviez quel âge à Auschwitz ?
25 ans.
C'était la jeunesse.
La jeunesse, oui.
27 mois gâchés.
Non, c'est pas gâché. Non, c'est pas gâché puisque je suis revenue. Voilà. Ce que j'ai appris là, personne ne l'apprendra. J'ai payé cher, mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai vu le courage, j'ai vu la bonté, j'ai vu la générosité, j'ai vu ce que les autres ont fait pour moi. Celles qui m'ont porté, celles qui m'ont aidé, celles qui m'ont donné à boire quand j'avais soif, celles qui se sont privées de leur pain pour obtenir un verre de boisson pour moi, alors que je mourais de soif. Alors, vous savez, ça donne en même temps une très grande confiance dans son semblable. Nous avons formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide, extrêmement serré, les unes contre les autres. Et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Parce que nous sommes aidés constamment et vraiment sans aucune défaillance. Nous avons formé une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours prêt à aider. Et alors, comme tout le monde n'était pas malade, mourant en même temps, évidemment, on pouvait s'aider.
Geneviève Rizac, cette voix de Charlotte Delbault, elle dit beaucoup de choses oui. au-delà des mots. Alors, oui. Les mots disent la solidarité, le courage, la force, l'optimisme aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire ce désir de dire pourquoi elle a survécu, grâce aux autres, grâce à leur force, grâce à leur amour réciproque. Il y a quelque chose de génie dans Charlotte Delbault. D'ailleurs, elles sont devenues amies. Jenny n'avait pas été déportée, ses parents l'ont été, elle a vécu avec un déporté, elle a travaillé sur ce qui s'est passé et sur, justement, les raisons de garder l'espoir. C'est une sorte de chaîne entre les femmes que vous décrivez aussi dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait vrai. La première raison de notre rencontre, c'est Charlotte Delbault. Le nom prononcé sur les antennes de la radio.
Vous faisiez une émission sur France Culture,
à l'occasion du centenaire de sa naissance, donc en 2013. C'est vrai que quand Jenny me dit, je l'ai très bien connue, mon cœur s'arrête parce que j'ai une, comme les gens qui la découvrent aujourd'hui, puisque depuis la biographie qui est parue à l'automne, beaucoup de gens ont découvert Charlotte Delbault et je pense que beaucoup de gens la découvriront encore. Parce que son œuvre, c'est vraiment un très grand écrivain, son œuvre reste très insuffisamment lue et connue. Et donc je suis tellement enthousiasmée à l'idée de m'approcher plus près de Charlotte Delbault parce qu'il y a cette force, cet enthousiasme, ce style incroyable, cet amour de la vie indéracinable, cette gaieté et cet humour. Quand elle dit, comme on l'a entendu, tout le monde ne pouvait pas être malade et mourir en même temps, ça aide beaucoup à se soutenir. C'est une façon d'aborder les choses que j'adore. Je trouve ça épatant et c'est exactement ça. Tout le monde ne peut pas être malade et mourir en même temps. Ça va, ça vient. Et dans les livres, dans la trilogie d'Auschwitz, en particulier dans La connaissance inutile, mais dans les trois tomes, elle décrit très très bien ça, ces relations entre des personnes qui sont devenues des corps méconnaissables à leurs propres yeux, sauf que tout le monde est pareil. Donc, d'accord, tout le monde est squelettique, verdâtre, horriblement malade, perd ses dents, ses cheveux et tout ce qu'on peut imaginer. Mais tout le monde est au même point et tout le monde, enfin, toutes ces femmes, puisqu'il s'agit de femmes, font la même expérience d'un regard sur leur féminité extrêmement difficile, mais elles le font solidairement. Les plus jeunes, les moins jeunes, les plus vieilles, le rapport aux vêtements, et puis elles se mettent à faire du théâtre. Et la façon dont elles parlent du théâtre, de ce malade imaginaire, ce qui est en plus vraiment une grosse blague, qu'elles arrivent à monter au moment du premier Noël, c'est incroyable. C'est un magnifique éloge de la pensée, en fait. Et c'est tout le temps. Et je trouve que dans l'époque que nous vivons, cette histoire de la pensée, que c'est la pensée qui donne des forces, que c'est la pensée qui rend solidaire, que c'est la pensée qui nous aide, c'est absolument essentiel. Quand j'écris « Vie de ma voisine », je ne veux pas raconter la vie, vous savez, comme les anniversaires de voisins ou la journée des voisins, c'est pas du tout dans ce sens-là. La vie de ma voisine, c'est la vie mentale, amicale, c'est pas du détail de la vie quotidienne concrète qu'il est question.
C'est la vie de votre voisine en spiritualité.
Exactement.
Si on pourrait dire, oui. Si on peut dire ça,
exactement,
sans avoir
ça
peur des grands mots.
Oui,
mais en ce moment, on a besoin de retrouver des mots comme
et
ça aussi.
Donc, ce qu'on échange, effectivement, c'est des livres, c'est plein de choses, hein, mais c'est d'abord ce qui donne du courage, c'est aussi de l'humour, c'est aussi des blagues, c'est aussi de la révolte. C'est aussi de la colère, c'est aussi de la protestation.
Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Charles Delbault, donc, vous a réuni, vous a ouvert la porte de votre voisine Jenny. Jenny elle-même qui est allée demander à Charlotte Delbault comment c'était, non pas par une curiosité déplacée, mais parce qu'elle voulait, elle, s'approcher au plus près des derniers jours de sa mère.
Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle voulait savoir comment c'était quand on arrivait. C'était la question qu'elle disait. Contrairement à ce qu'on a énormément dit, les personnes qui ont été déportées, qu'elle a rencontrées, elle en a rencontré énormément, n'avaient jamais de refus de parler. Mais elle posait des questions précises, en particulier comment ça se passait concrètement quand vous arriviez.
C'était quand quoi, les portes du wagon s'ouvrent.
Voilà, ouais. Exactement. Et pour se faire une représentation. Et pendant très très longtemps, elle n'a pas pu se faire de représentation. Elle a commencé par le nier, le refouler. Je pense qu'on va en reparler de ce qui s'est passé concrètement avec ses parents. Et puis un jour, elle a voulu savoir. Et là encore, c'est passé par un livre. et donc par un livre, une traduction qu'elle a faite, et là elle s'est immergée. Et avec Charlotte Delbault, c'est ça, c'est dis-moi concrètement comment vous faisiez. Et la force des paroles de Charlotte Delbault, c'est que c'est comme c'est des paroles d'écrivain, et comme elle a horreur de l'apitoiement, de l'auto-apitoiement encore plus, du gnangnan sous toutes ses formes, parce qu'elle partage évidemment avec Jenny, quand elle écrit ses livres, elle dit « je ne veux pas être », parce que j'ai pas l'intention d'écrire les mémoires d'une quelconque Tartempionne à Auschwitz. Moi, j'adore cette expression « je ne veux pas être Tartempionne à Auschwitz » ou « Martine à la plage ». Moi, ce que je veux, c'est tirer, comme elle le dit, de cette expérience unique, si, enfin unique, espérons-le, quelque chose d'unique, une transmission, en fait, que ça serve à quelque chose.
Alors, servir à quelque chose. Moi, je suis frappée en lisant votre livre, Geneviève Brisac, de ce que Jenny vous a apporté, à quoi elle a servi pour vous. J'ai l'impression qu'elle vous a infusé du courage. Or, c'est une petite dame, petite physiquement, d'un âge avancé. Elle est née en 1925. Et elle distribue autour d'elle de l'énergie, de la révolte, de la colère. C'est un carburant pour le courage.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Parce que j'irai pas jusqu'à. Moi, je suis pas du tout dépourvue de courage, mais parfois j'ai du mal avec la colère. Je suis pas une personne. Peut-être aussi parce que j'écris. La colère n'est pas mon.
Votre carburant principal.
J'aimerais beaucoup, j'aimerais souvent y avoir accès. C'est pas à ça que j'ai accès d'abord. J'ai plus accès à la mélancolie, qui m'empêche pas du tout d'agir. Mais. Ça me fait beaucoup de bien, effectivement, comme vous le disiez, d'être accompagnée ou d'être avec des personnes, une personne en l'occurrence, Jenny, qui pense que ça sert à quelque chose, même quand ça sert à rien.
Donc, Jenny,
en particulier la protestation.
Voilà, Jenny est en colère et elle trouve, elle, que c'est très utile.
Exactement.
J'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Tous les gens qui ont tué mon innocence et mon corps qui a porté ma souffrance. Ça m'emmène du rire aux larmes, ça m'empêche de prendre les armes encore. Une mise à mort dans un corps à corps. Je pensais pas pouvoir le faire sans avoir appelé ma mère d'abord. Et je l'appelle encore. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres encore une fois. Pas de cinéma, pas saison de lave. J'avais faim de faire la guerre sans pouvoir appeler ma mère d'abord. Mais je l'appelle encore. Et je l'appelle encore. Oh. Silence à Mora. Pas vraiment normal. Pour sortir des flammes sans plus jamais brûler mon âme. « quand je pouvais voir les hirondelles, le temps d'un vent et des ombrelles. Y a un goût amer qui reste longtemps parmi mes amis, mes amours et mes amants. Quand j'avais le goût des étincelles, quand j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant parmi mes amis, mes amours et mes amants.
Geneviève Brissac, dans votre dernier livre, Vie de ma voisine, qui vient de paraître aux éditions Grasset, ce n'est pas seulement la vie de votre voisine, Jenny Plocky, c'est la vie de ce qui l'a constituée. Et au départ, d'ailleurs c'était les premiers mots de sa lettre qu'elle vous a glissée dans votre boîte aux lettres, il y a ses parents. On peut dire que Jenny Plocky a eu une très bonne éducation, au vrai sens du terme, par sa mère Rivka, son père Nissim, qui étaient arrivés tous les deux de Pologne au début des années 20, qui se sont rencontrés, aimés, mariés, qui ont fait deux enfants avant d'être déportés. Ils ne se sont pas mariés. Ils étaient ensemble, ils ont fait deux enfants et ils ont été déportés ensemble en 1942. Quand je dis une bonne éducation, c'est aussi cette éducation qui caractérise cette vague d'émigration des années 20 et 30 en France, vers la France, vers pas n'importe où, vers la France, dans un pays où les femmes devaient être plus libres, où l'éducation était pour tous, où la culture était à portée de main. C'est tout ça que cette petite fille a eu.
Oui, c'est vrai. Sa mère faisait partie d'une organisation juive polonaise, le Bund, révolutionnaire. Elle avait Rosa Luxembourg comme idole, comme modèle, comme inspiratrice, et elle en parlait. Son père, Rivka, a rejoint Nushim, qui était venu un petit peu plus tôt, chercher du travail aussi, parce que c'est lui, il était professeur de russe et de polonais. Et donc, il lui est arrivé, il a réussi à trouver du travail, et il a fait venir Rivka. Et donc, la petite Jenny est née l'année suivante, en 1925. Et effectivement, le père a très mauvais yeux. Ça joue un rôle assez important dans le livre. Nushim est un homme très doux, très socialiste, et qui adore les livres, la lecture, dont l'idéal est une immense bibliothèque dans laquelle on pourrait flâner toute la journée, et aussi se promener au Bois de Vincennes, les deux choses qu'il adore. Et donc, très rapidement, comme il a ses mauvais yeux, c'est Jenny qui lui fait la lecture. Et donc, elle lui lit Victor Hugo beaucoup, Balzac beaucoup, Zola beaucoup, Romain Rolland énormément, etc., etc. Donc, ils sont vraiment pétris de cette culture fondamentalement républicaine. Et très rapidement, quand elle a 9 ans, son père l'emmène à des manifs. Alors, la première manifestation, c'est en 34.
En 34, en février 34.
En février 34, pour répondre
aux Ligues.
Aux Ligues. Et donc, c'est un souvenir absolument mémorable. Ensuite, il va aussi l'emmener aux manifestations de 36 et puis visiter des camarades en grève dans les usines. Et de tout ça, elle garde évidemment une empreinte absolument...
Alors, c'est une partie de votre livre, Geneviève Brissac, qui est extraordinairement vivante, nourrie. C'est-à-dire qu'on rejoint ces premières paroles, nos parents nous accompagnent et nous ouvrent encore des portes aujourd'hui. C'est une partie du livre où on sent la vie qui éclate à chaque page. La mémoire, elle est très charnelle encore sur les odeurs, sur l'appartement, sur le travail, sur les rires ensemble. Les confidences ensemble. Il y a une intimité immense entre Jenny et ses parents, dans laquelle vous vous retrouvez avec bonheur.
Oui, c'est vrai, je me suis vraiment repeint. Au fur et à mesure que Jenny me racontait, enfin, pas du tout d'un coup, d'ailleurs en plein de moments, sur une assez longue période, et même au cours de promenades, bon, je me les suis représentées, peut-être que d'ailleurs, peut-être tout à fait à tort, mais d'ailleurs ça n'a absolument aucune importance, je pense, je crois que ça n'en a pas tant que ça. Je me suis forcément représenté des choses que j'ai réinterprétées par moi, évidemment. Mais quand même, ce père très rêveur, très poète, très tolérant et en même temps très radical, et cette mère extrêmement déterminée, extrêmement active, qui sait tout faire dans la maison et en dehors de la maison, et qui est absolument rassurante, c'est des personnages très beaux. Il y a une scène que j'adore où Jenny se fait opérer des amygdales. Elle est toute seule à l'hôpital Cochin, Et évidemment, ses parents ne peuvent pas rester à son chevet. Elle a 8 ans, elle est très petite. On ne se représente pas du tout aujourd'hui qu'est-ce que c'est cette façon de vivre. Et donc, sa mère vient le matin très tôt et lui apporte du jus de cerise glacé. Et moi, cette idée de jus de cerise, c'est vraiment, alors là, tout ce qu'il y a de polonais, le jus de cerise, du jus de cerise glacé, et qu'elle lui donne, et c'est rouge comme le sang de l'opération qu'elle vient de subir, et elle lui dit, je vais pas pouvoir venir pendant les 3 jours qui viennent, mais je viendrai te chercher, sois-en sûre. Et donc, à la fois, elle est pas du tout abandonnée, pas du tout. Il y a sans arrêt ce mouvement d'absence et de présence et de sécurité qui rejoint après les autres métaphores de perte. Et donc j'ai demandé à Génie, mais le jus de cerise, elle le trouvait où? Ça s'achète tout, le jus de cerise. Évidemment, Rivka fabriquait tout. Donc pour sa petite fille, et malgré le travail, la vente des chaussettes sur le marché, elle avait fait cuire des cerises. Elle avait passé les cerises à travers un torchon, elle avait recueilli le jus dans des bocaux et elle les avait mis dans de la glace pendant des heures et des heures. Donc c'est quand même tout un boulot, quoi.
Il y a aussi quelque chose que vous avez fait tous les deux et le lecteur vous imagine l'une et l'autre partant dans ces banlieues d'aujourd'hui qui sont tous sauf accueillantes parce qu'il faut traverser le périphérique au milieu des travaux. Et vous êtes partie en reconnaissance pour retrouver les lieux où Génie avait vécu avec ses parents.
C'est-à-dire que quand elle a compris que j'allais vraiment faire un livre, chose à quoi elle était pas totalement, qu'elle était pas totalement pour au départ, puisqu'elle disait que j'ai rien à dire, je suis rien, ça n'a aucun intérêt, tout ça n'a aucun intérêt, etc., etc. Et donc, quand elle a compris que, je crois, enfin, peut-être elle le dirait mieux que moi, mais en tout cas, elle m'a proposé de faire ce voyage. Et ces voyages ont été incroyablement nourrissants. Parce qu'en fait, comme toujours dans le voyage, il y a le but, mais ce qui compte, c'est le trajet. Et la conversation qu'on a eue dans ces bus qui traversaient, comme on traverse le temps justement, le périphérique, les zones commerçantes ou d'entrepôts en allant à Aubervilliers. Et surtout, quand on va retrouver un logement dans lequel on a habité il y a 75 ans, effectivement les chances qu'il soit encore là ne sont pas si grandes. Et donc, aller vérifier qu'en fait, cette petite maison existe toujours, c'était tout à fait... incroyable.
Et en même temps, on sent bien, Geneviève Brisac, que faire remonter ces souvenirs heureux à la mémoire de Génie, c'est aussi à buter sur cette date terrible de juillet 42.
Oui.
C'est la rafle du Veldiv, ses parents sont arrêtés, et là, il y a... votre plume a dû être un peu arrêtée dans son élan, parce qu'il fallait trouver les mots pour décrire le dernier face-à-face entre les parents et surtout la mère, Rivka, et sa fille, à qui elle va se dépêcher de raconter l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toujours du concret dans ces cas-là.
Je plonge dans les souvenirs d'une autre que moi. J'imagine ce 16 juillet, j'essaie. Une jeune fille est entièrement tendue vers sa mère. Celle-ci parle sans s'arrêter, pressée par le temps, puisqu'elle ne sait pas de combien de minutes elle dispose pour tout dire à sa fille, tout lui dire sur tout. Rivka s'oblige à un inventaire imaginaire. Les tiroirs de la cuisine, les produits ménagers, le rangement, la javel et le détergent, la boîte à couture, la serpillière, les casseroles, la poêle où Jenny fait cuire ses steaks hachés depuis qu'elle a refusé de rester à la cantine. Tout ce à quoi il faut penser dans un appartement, même minuscule. L'ordre sacro-saint. Comment il faut tenir une maison. Jamais je n'ai rien fait d'autre que d'acheter des bonbons en même temps que le pain. La baguette dont je grignotais les deux bouts avant de remonter à la maison. Des tâches ménagères, Rivka l'a préservée jusqu'à ce 16 juillet, pour qu'elle étudie, sa fille si intelligente, si douée, une future chercheuse peut-être. Rivka se concentre, penser à tout, être tout à l'instant présent, ne pas penser à soi. Les courses, on ne peut les faire qu'entre 15 et 16 heures, ça va être impossible avec l'école. Tu te débrouilleras, les tickets sont dans la cloche. Ensuite, il faut aller les chercher à la mairie. Il y a la lessive et le repassage, le sol et le loyer à payer, les factures, raccommoder les habits, faire à manger, midi et soir, se méfier des voisins, faire confiance, mais à qui ? Rivka raconte. J'imagine que son accent est plus fort que d'autres jours parce qu'elle se contrôle moins. Elle dit que la vie est compliquée pour les femmes. Si tu tombes amoureuse, et tu vas tomber amoureuse, et ce sera merveilleux, tu n'es pas obligée de l'épouser. Si tu es enceinte et que tu n'aimes pas le garçon, ou pour une autre raison, tes études ou l'argent, tu peux faire passer l'enfant. et Jenny comprend que Rivka l'a fait. Elle comprend que c'était ça, cette maladie de sa mère qui jamais n'était malade, il y a 4 ans, en 1937 ou 1938, et sans doute d'autres fois. Rivka, qui a appris à sa fille à ne pas croire au Père Noël, ni à la petite souris, ni à Dieu, ni à diable, mais seulement à l'amour, à la lutte et à la liberté, lui apprend en 2 heures à être une femme libre, une femme indépendante. Les écrivains, je trouve ces 2 adjectifs creux et moches. Le vrai mot serait « mensch », un mot yiddish qui n'a pas de féminin. Rivka a toujours été une mensch. Ce n'est pas en cet atroce 16 juillet qu'elle va changer.
Geneviève Brisac, la description de Rivka, ce que vous décrivez dans votre livre comme la mère la plus fiable du monde, dans cette page-là, c'est absolument déchirant, mais ça n'est jamais du pathos, c'est-à-dire qu'elle est là, pressée, elle va quitter, elle le sait probablement pour toujours, cette fille de 17 ans qu'elle a voulu consacrée à ses études, et elle va essayer de lui apprendre à survivre seule dans cette petite maison avec un jeune frère et à prendre sur ses épaules la responsabilité de tout.
Alors, il faut dire ce qui s'est passé à avenue Georges Besquel. Donc, dans cette maison où tous les juifs de Vincennes avaient été enfermés, un commissaire de police arrive du commissariat de Vincennes et dit « Les enfants français peuvent partir ». Et évidemment, là, il y a certainement d'autres enfants français que Jenny et son frère, mais seuls Rivka et Nochim prennent instantanément et sans se concerter la décision de dire les enfants partent. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont français? Ils sont français parce qu'il y a une loi, il faut le dire, de 1927 qui a été promulguée et qui dit que des parents étrangers, Nochim et Rivka sont polonais, peuvent faire obtenir la nationalité française à leurs enfants à la naissance, à partir du moment où ils vont les déclarer français. Alors, il faut faire un acte positif, faire une déclaration, mais c'est automatique à partir de ce moment-là. Et je trouve que cette loi, c'est un référent précieux par rapport à tous les débats qu'on a sur la nationalité depuis et encore aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est ce qui a sauvé ces deux enfants, et aussi la détermination des parents qui étaient suffisamment politiques et informés pour savoir que c'était la seule solution pour les sauver. Ils savaient très bien qu'eux, ils ne s'en sortiraient pas.
Alors, on a du mal à se représenter. Et d'ailleurs, elle ne s'étend pas beaucoup, Jenny, quand elle vous raconte les années d'après. C'est-à-dire qu'il y a le retour dans cette maison vide. De ces deux enfants. Il faut qu'ils se trouvent à se nourrir alors qu'ils n'ont pas d'argent, à vivre alors que autour d'eux ce n'est pas un environnement très agréable. Il y a une amitié qui va les sauver, surtout elle, Jenny, une amitié qu'elle va conserver toute sa vie. C'est aussi une sacrée leçon de courage. Elle aurait pu se laisser mourir. Il n'en était pas question pour la fille de Rivka et de
Nochim. Non, elle avait vachement de choses à faire. Alors d'abord, il faut dire qu'il y a Monique, donc Monique, son amie de toujours, son amie depuis qu'elle est petite, son amie qui est à l'EPS, à l'école pour devenir institutrice, et qui est la mère de Monique, enfin les parents de Monique, c'est aussi très important parce que c'est eux qui vont, rester aux côtés de Jenny tout le temps. C'est une amitié, une solidarité absolument sans faille. Et d'autant plus que ce que décrit Jenny, c'est que elles s'amusent bien, les filles, à partir de la rentrée des classes, etc., etc. C'est pas du tout sinistre comme c'est la vie. Mais quand même, je voudrais juste revenir une seconde sur cette semaine, à peine une semaine, entre le 16 juillet et le 27 juillet, entre le 24 et le 27 juillet, disons, c'est le moment où les parents sont à Drancy. Et il y a quelque chose qui, moi, m'a, puisqu'il est beaucoup question de lettres et d'échanges de lettres dans ce livre, pas du tout par hasard, il y a quelque chose qui m'a prodigieusement bouleversée, c'est que Jenny et son frère et les parents échangent des lettres quotidiennes. Donc eux, ils sont à Drancy, les enfants sont à la maison et tous les jours, ils échangent des lettres qui sont des lettres contrôlées et des lettres un peu standards. Mais et dans ces lettres, pour se réconforter mutuellement, ils mentent. C'est-à-dire que les parents envoient des mots en disant « Vous inquiétez pas les enfants, tout va bien, on espère que vous vous débrouillez, etc. » Et les enfants disent « Ça va, les parents, on se débrouille, tout va bien, on va à l'école, nanana. » Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que cet échange de mensonges, en fait.
boxer boy, my boxer boy. Zoim der klib mchob zichkoy, mchob zichkoy. Ich sitz unter a feigen boy, my feigen boy. Warum is green, warum is groin, siz green und groin. Ich lieg unter a Mandelboy, a Mandelboy. Is gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. Ich lieg unter a Mandelboy, a Mandelboy. Is gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. A Boxerboy, a Feigenboy. Mandelboy min oy gatre haltay zikhkoy a boxerboy a feigenboy a mandelboy in oy gatre haltay. Der Feigenboy, der Feigenboy. Ich lieg unter a Mandelboy, a Mandelboy. Is gewein bei mir in Träum, bei mir in Träum. A Boxerboy, a Feigenboy. A Mandelboy, mein Eugatrer Alter.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Geneviève Brisac, vie de ma voisine, vie de Jenny Plocky, votre voisine, récit de vos conversations et de vos pérégrinations dans la banlieue nord de Paris. Il y a quand même une différence entre parler avec quelqu'un, y prendre du plaisir, et convaincre ce quelqu'un, en l'occurrence Jenny, qui n'est pas facile à convaincre, que sa vie, sans être tartempionne à travers le siècle, pour reprendre l'expression de Charlotte Delbault, c'est une vie qui nous importe, et qu'un livre est quelque chose d'adapté à ce récit. Vous avez eu du mal à la convaincre ?
À la fois oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu du mal parce que Jenny, comme vous le disiez très justement, ne voulait pas que déteste le moi contemporain, la mise en avant, le narcissisme pénible, l'étalage, le piédestal, etc., etc. Donc elle était très contre ça. Et d'un autre côté, c'est une personne qui a une caractéristique dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que c'est une immense lectrice. C'est une lectrice absolument magnifique. Et d'ailleurs, nos discussions ont très souvent porté sur des livres, sur Alice Munro, sur Flannery O'Connor, où elle lit l'anglais, elle lit, par exemple, elle adore, bref, c'est pas la question des goûts littéraires de Jenny Plocky-Zgoda, mais nous partageons le goût pour les femmes écrivains anglo-saxonnes, et puis beaucoup d'autres, et puis Tchekhov, et puis le théâtre, mais en fait, ce que je lui ai dit, tu te souviens, j'ai écrit un livre sur Flannery O'Connor, et c'est un livre dont je sais qu'il a apporté des choses à des gens, parce qu'à travers Flannery O'Connor, je parlais d'un tas de choses, et je lui ai dit, c'est ça que je voudrais faire avec toi ce qu'on appelait à l'époque la collection L'un et l'autre, c'est-à-dire un portrait de toi, mais où évidemment je parle de moi, et en fait on ne parle ni de toi ni de moi, et je crois que c'est ça le livre, on parle d'autres choses, on parle des parents, on parle de promenade, on parle des enfants, on parle de l'école, on parle de la liberté, on parle de la transmission, on parle de politique, on parle de poésie. Enfin, Jenny n'est pas une personne célèbre, je ne suis pas moi non plus une star, donc c'est des personnes, on est comme tout le monde, et c'est ça qui est bien.
Alors ce livre, Vie de ma voisine, il a déjà beaucoup circulé dans l'humeur vagabonde et notre reporter Gladys Mariva s'en est emparé pour tenter de réaliser le fantasme de tout bon lecteur, c'est-à-dire rencontrer pour de vrai l'héroïne d'un livre. Alors avec toujours l'espoir de ne pas trop être déçue. Eh bien, elle ne l'a pas été du tout déçue, Gladys, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle m'a chargée de dire ce qu'elle a ressenti. Dans cette belle rencontre, elle s'est retrouvée, dit-elle, devant une femme généreuse et drôle, toujours concernée par ce qui se passe dans le monde et dont la saine colère lui a redonné à elle un peu de courage. On écoute l'enregistrement de cette rencontre. Voilà.
Pas trop lourd, ça. Non. Bon, bah, vous le garderez, vous le garderez pas. Je trouve qu'elle me met beaucoup trop en avant, beaucoup trop sur un piédestal. Hein. Honnêtement. Par contre, je trouve qu'elle rend grand hommage à mes parents. Et ça, évidemment, ça me fait plaisir. J'avais déjà lu ses livres avant qu'elle vienne habiter l'immeuble. Vous savez qu'elle habite au premier. Hein. Et j'avais envie de lui parler, mais je n'osais pas trop. Et pour l'anniversaire du centenaire de Charlotte Delbault, elle a fait une émission sur France Culture que j'ai entendue. Et là, ça m'a décidée, parce que moi, j'ai bien connu Charlotte Delbault. Donc, je l'ai rencontrée un jour dans l'escalier. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous parler de Charlotte Delbault? Elle a été d'accord. Et petit à petit, on est amené à se parler de plus en plus, et de plus en plus intimement, forcément, au fur et à mesure. Voilà comment tout a commencé. Qu'est-ce que j'ai pu lui dire sur Charlotte Delbault? D'abord que je l'avais connue, que je l'ai rencontrée dans un dîner chez des amis, que j'avais vu son numéro sur son bras. Et comme mes parents étaient déportés à Auschwitz et ils sont morts, je lui ai demandé qu'elle m'en parle. Et surtout qu'elle me parle de l'arrivée à Auschwitz. Le train qui s'arrête, les hurlements, les chiens, les colonnes qu'on fait de chaque côté, ceux qui vont travailler, comment on les enferme immédiatement, on ira des pieds à la tête, on les passe à des produits, on les... enfin, comme elle le dit à un moment, quand on sort de ça, on ne reconnaît plus sa copine, on ne se reconnaît plus. C'était dur, mais j'avais besoin de le savoir, savoir comment ils avaient vécu leurs derniers instants, et l'impression idiote que si j'avais été là, j'aurais pu faire quelque chose, ce qui est complètement... idiot, parce que, évidemment, j'aurais peut-être été dans la colonne de ceux qui n'allaient pas. J'étais pas très grande pour mon âge. Alors j'ai raconté tout ça à Charlotte, à Geneviève. J'étais adhérente d'un mouvement d'auberge de jeunesse dont vous avez sans doute entendu parler. Et là, il y avait et des anards et des trotskistes. Et un de ces trotskistes m'a dit, écoute, on pense tous pareil, viens chez nous. Il va y avoir un congrès, tu vas voir, ça va être intéressant. Alors j'ai dit oui, et il me donne deux thèses. Et il y avait une chose que je ne pouvais pas accepter, c'était la défense inconditionnelle de l'URSS. Étant donné le stalinisme, on ne peut pas défendre l'URSS. Alors le camarade en question me dit, écoute, j'ai deux autres tendances qui devraient te convenir. Il y avait deux autres tendances qui étaient contre la défense de l'URSS. L'une était d'un monsieur Castoriadis que nous appelions Chaulieu et qui a fait plus tard, peut-être avez-vous entendu parler de socialisme ou barbarie. Donc je suis rentrée au PCI directement dans la tendance de ce camarade. Et quand on a tous quitté le PCI en 1948, quand ça a éclaté, j'ai continué de militer à socialisme ou barbarie pendant... je sais pas, une petite dizaine d'années.
Ça vient d'où ce besoin d'appartenir à un groupe?
Le besoin de s'accrocher à des idées et d'en discuter, toujours. Même si on n'est pas d'accord, mais de discuter avec des gens qui sont du même bord, du même côté de la barricade.
Et est-ce que vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ce même...
Aujourd'hui, je crois qu'on peut être désespéré. Hein, parce que c'est pire que tout ce qui arrive en ce moment. Il n'y a plus personne pour dénoncer comme ça sur du papier, mais pour faire quoi que ce soit, pour défendre... les peuples, regardez, il ne se passe plus rien, même dans aucun milieu finalement. C'est assez désespérant.
Vous êtes toujours autant engagée dans le monde.
C'est-à-dire, non, je ne suis plus engagée dans rien, mais je suis les événements de tout près, comme beaucoup de gens quand même. Mais on est tellement impuissant que je suis même allée passer des soirées à Nuit Debout quand même.
Vous avez aimé Nuit Debout?
J'ai aimé et en même temps, je trouvais que ça aboutissait pas. On ronronnait un peu.
ça n'apportait pas d'action, si vous voulez. Ma seule façon de militer, quand j'ai plus été organisée, c'est d'aller systématiquement à toutes les manifestations. La dernière, je suis allée, c'est pas tellement vieux, un an à peu près. Mais là, maintenant, je fais attention, je peux plus la faire entière. Hein. Je vais au début, je regarde passer, puis j'en fais un petit bout, puis je rentre. Je vais aux manifestations politiques, bien sûr, aux manifestations contre la loi travail, aux manifestations contre les guerres, aux manifestations des sans-papiers, enfin voilà.
Qu'est-ce qui vous a mis en colère récemment ?
Oh, l'accueil des étrangers, c'est une catastrophe. Écoutez, en 1956, on a reçu de Hongrie environ 100 000 Hongrois qui sont restés ici, sont intégrés, mariés, fait des enfants et sans problème. Quand Castro a commencé à vider à Cuba des tas de gens qui ne pouvaient plus y vivre, on les a accueillis. Quand Allende a été assassiné, des quantités de Chiliens sont venus à Paris, sont installés, ont vécu ici, sans problème. Mais par dizaines de milliers, je veux dire, pas des cas isolés. Et maintenant, on ne peut pas recevoir 100 000 Syriens. C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je ne parle pas des primaires, ni de la droite, ni de la gauche, parce que ça me hérisse. Mais bon, j'y peux rien. Mais les immigrants, je me disais, on pourrait peut-être quelque chose. Mais c'est sans espoir pour l'instant. Mais je crois qu'il faut garder de la colère. Vous ne croyez pas ? Ça aide à tenir le coup d'être en colère.
Gardons de la colère, comme nous le conseille Jenny Plocky. Geneviève Brisac, on voit bien ce que... Là, vous avez apporté à Jenny Plocky ce beau livre, Vie de ma voisine, chez Grasset. Elle, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ?
Elle m'apporte, c'est pas du passé du tout. C'est parce que vous disiez une complicité, une amitié, une chaleur, cette possibilité de discuter régulièrement, tout le temps, de rire aussi. C'est une amie. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ?
C'est un remède à la morosité ambiante.
À les amis, ah oui.
Et Jenny en particulier.
Et Jenny en particulier.
Merci infiniment Geneviève Brisac d'être venue nous voir aujourd'hui pour nous parler de Jenny et pour nous présenter ce livre « Vie de ma voisine » qui vient de paraître aux éditions Grasset et que je recommande vivement à tous ceux qui écoutent l'Humeur Vagabonde. Merci à vous Geneviève.
Merci beaucoup Kathleen.
C'est fini pour l'Humeur Vagabonde de ce dimanche. Si vous le voulez bien, nous nous retrouverons dimanche prochain. Je recevrai Dominique Cabrera pour son film Corniche Kennedy, qui sera juste sorti. Adaptation, bien sûr, du livre de Maïlys de Kerangal. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.